des livres plein les oreilles. Bonjour les amis, comment allez-vous bien? Je l'espère, vous qui êtes des amoureux de lecture, vous savez que sur les ondes de Canal M, ce rendez-vous est un incontournable. L'émission des livres plein les oreilles, animée par Clotilde Sey, mais qui ne sera pas seule, qui a l'habitude d'avoir toutes sortes d'invités autour d'elle. Alors aujourd'hui, nous recevons, comme à chaque moitié de mois, nous avons la chance de l'avoir à l'émission. Je vais recevoir Gérald Cousineau, qui va nous remettre dans les oreilles ce livre que nous avons tant aimé, « Chercher Sam » de Sophie Bienvenu. Elle était d'ailleurs venue à l'émission pour nous en parler. Et puis aussi, et ça se fera par téléphone, nous vous expliquerons pourquoi, je vais m'entretenir avec Guylaine Gay, qui va nous faire tomber en amour avec ses deux amours, avec ses deux garçons autistes. Et elle a écrit cette histoire dans un livre qui s'appelle « Deux garçons à la mer ». Et nous retrouverons en seconde partie de l'émission l'inénarrable Gérard Saint-Denis qui cette fois-ci va nous proposer dans sa chronique des livres qui concernent la religion. Nous pourrons revisiter toutes sortes de religions grâce à lui. Et puis il y aura des rubriques, par exemple il y aura la bande-annonce de la semaine prochaine et puis il y aura des nouvelles et des livres consacrés à la mort d'Umberto Eco et nous finirons bien sûr par quelques titres en rafale. Mais là, je sens qu'il est impatient de nous parler de Chercher Sam. Je vais tout de suite m'entretenir avec Gérald Cousineau. Bonjour, cher Gérald.
Bonjour, chère Clotilde.
Comment allez-vous?
Pas trop mal.
Bien. Alors, chronique de Gérald, chronique mensuelle de Gérald, qui nous fait l'honneur, la joie et l'avantage de venir une fois par mois à l'émission.
Oh, la barre est haute.
Pour nous partager un livre. Quand vous m'avez proposé « Chercher Sam » de Sophie Bienvenue, je me suis dit « Oui, mais j'ai accueilli déjà Sophie. » Mais
oui.
par contre, c'est un livre tellement important que je me suis dit « Oui, bonne idée ». Qu'on le resuggère à nos auditeurs.
Et vu mon âge avancé, n'est-ce pas, ça aurait été difficile pour moi de, comment dit-on, de changer de livre vite. Enfin, j'exagère un peu, mais j'adore ça.
D'accord. Alors, Chercher Sam de Sophie Bienvenu.
Ben, vous l'avez rencontrée, hein, c'est une jeune femme. Elle est née en 80 en Belgique. Elle a vécu en France. Mmh. Elle est venue au Canada et elle est québécoise d'adoption.
Voilà.
Alors, c'est son deuxième roman. Le premier s'appelait « Et au pire, on se mariera ». Il n'est pas disponible, malheureusement, en format adapté. Enfin, pas encore. Chercher Sam, lui, est disponible au Service québécois du livre adapté, donc au SQLA. C'est un tout petit livre, hein. Enfin, bref, mais dense.
Oui.
Bref, parce qu'il fait 170 pages, mais oh là là, il est dense.
Oui.
Alors, c'est quoi? Ben, c'est l'histoire de Mathieu. Hein, Mathieu, c'est... Moi, j'aime pas le mot itinérant. Ça fait penser à un commerçant itinérant. Alors, je préfère sans-abri. C'est un jeune, quoi, il a 23, 24 ans, jeune sans-abri de Montréal qui se balade dans les rues de Montréal avec son chien. Soyons plus précis, sa chienne, qu'il appelle Sam. Sam, et on apprendra plus tard que cette chienne est une pitbull. Je le signale parce que c'est très important dans le livre.
Oui.
Donc, il se balade, mais un jour, Sam disparaît mystérieusement.
Mm-hmm.
Alors là, il n'a pas le choix, il est malheureux. Sam, c'est sa, je vais dire, sa douce moitié, c'est son autre, peut le dire comme ça.
Oui, absolument.
Alors là, il va partir, bien sûr, à sa recherche. Il va fréquenter des individus un peu loufs, des individus à la mine patibulaire, mais qui aiment comme lui les chiens. Mais non, toujours pas de Sam à l'horizon. Et alors qu'il se livre à cette errance, eh bien là, il raconte, finalement, parce que c'est lui le narrateur, il raconte son passé et on apprend petit à petit, fragment par fragment, ben, ce qui lui est arrivé. Or, il lui est arrivé des choses horribles.
Oui.
Alors, son père est mort d'un cancer du poumon, donc lui ne fume pas. Il ne veut pas toucher à la drogue non plus. Sa petite amie, Karine, qui a fui dans les maritimes, il apprend un jour qu'elle est morte. Elle aussi avait touché à la drogue. Et de cette Karine, il a eu une fille, ça on l'apprend assez tard dans le livre, Lila, joli prénom, mais cette petite fille-là meurt tragiquement, alors que son père, Mathieu, travaille, parce qu'il ne pouvait pas ne pas travailler, sinon il aurait été congédié. Donc, vraiment, c'est une suite de malheurs incroyables.
Oui. Qui l'amène dans la rue. Hein?
C'est ça, et tout ça nous est raconté par fragments, et de façon, je dirais, c'est une chronologie, oui, mais c'est pas linéaire, c'est déconstruit. Donc, on apprend petit à petit quel genre de bonhomme c'est Mathieu, et on ne peut que, mon Dieu, sympathiser avec lui, parce que c'est beaucoup. Il a vécu beaucoup pour son jeune âge, disons.
Oui, c'est ça. Il a quel âge à peu près dans le livre?
Moi, je dirais autour de 23-24 ans.
Oui, il est vraiment jeune.
Voilà. Ah oui, il est très jeune. D'ailleurs, sa fille, il l'a eu alors qu'il avait 18 ans.
Ah oui, en effet, oui.
Alors, c'est un très jeune papa, et évidemment, il aime beaucoup sa fille. Ça, c'est très beau, ces passages où il parle de sa fille. Et quand je dis il parle, d'ailleurs, Sophie Bienvenue, vous l'avez peut-être mentionné, c'est pas un personnage qui s'exprime comme les personnages de Proust, on s'entend bien, là.
Non.
C'est un français qu'on peut appeler québécois, avec un plus majuscule, là. Mais c'est une langue, par contre, qui colle parfaitement bien au personnage.
Ouais, ouais.
Et moi, je dis bravo à Sophie Bienvenue, parce que pour une Belge française, qui d'ailleurs est devenue canadienne en 2014, eh bien, elle a su très bien se couler dans la tête de ce personnage, et effectivement, on aurait pu difficilement lui donner un autre langage.
Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Je pense qu'elle a mieux réussi qu'Alexandre Jardin, par exemple. Je ne sais pas si vous avez lu le livre qui se passe au Québec, mais où il fait parler des Québécois, et c'est une...
Oui, je suis...
Vous en avez entendu parler, quoi. Hein?
Un petit peu, mais j'ai peur, effectivement, quand j'apprends qu'un auteur français a fait ça.
Oui.
Mais je dirais que j'avais bienvenu, de toute façon, je pense que maintenant, il n'est plus québécoise que vous et moi. Là.
Oui.
C'est vraiment très bien.
Surtout vous d'ailleurs, parce que moi, je pense être plus proche d'elle. Mais enfin, moi, je sais que j'aurais pas osé, même si ça fait 30 ans que je suis là. Mais revenons-en à Sophie Bienvenue. Est-ce que c'est un personnage fictif, je me souviens plus, ou est-ce que c'est un personnage qu'elle a rencontré?
Oui, c'est un personnage fictif, mais elle s'est inspirée par contre de personnages qu'elle a rencontrés dans la rue, dont un jeune homme de 24 ans, qui a aussi un chien, qui se balade dans les rues de Montréal. Donc, on pourrait dire, oui, elle a eu effectivement un modèle, entre guillemets, là. Mais ça n'en donne pas moins au personnage de Mathieu une forte présence.
Oui.
Et c'est fait, cependant, avec, je dirais, délicatesse. C'est pas un livre, mais c'est un livre douloureux, c'est vrai, mais que je ne donnerai pas la fin. Mais à la fin, il y a comme une éclaircie. On pourrait même dire un rayon de soleil. On dit, ben, coudonc, il y a de l'espoir malgré tout dans cette vie si jeune. Et si déjà dur, parce qu'encore une fois, il est allé de deuil en deuil, mais à la fin, il y a une éclaircie. On devine qu'il y a une ouverture. Là. Il va se remettre de ses nombreux deuils, de ses nombreuses tragédies. Il y a de l'espoir. Et je pense que tout ça fait que c'est un livre très beau, très beau.
Absolument. Et puis, le pitbull, c'est pas par hasard. Hein?
Non, d'ailleurs, elle dit dans une entrevue que elle-même,
c'est ça.
J'avoue que j'en avais moi aussi des préjugés envers le pitbull, mais là, il nous en présente un auquel on ne s'attendait pas. Eh bien, les gens pensent souvent que le pitbull est un chien extrêmement dangereux, fait pour agresser. Ben, d'après ce livre-là, et moi j'aurais tendance à le croire, mais non, pas du tout. Ce sont des chiens comme les autres, mais on lui a donné une réputation. On leur a donné une mauvaise réputation qu'ils ne méritent pas.
Ah non, absolument. Moi, comme je dis toujours, un chien, quand il sort du ventre de sa mère, quoi qu'il arrive, que ce soit un caniche ou un pitbull, c'est une petite bête absolument
pas... Oui, ça dépend de ce qu'on fait de ce chien.
Voilà, c'est ça. Et puis d'ailleurs, elle avait dit aussi, je ne sais pas si c'est le même article que nous avions lu, mais elle avait dit qu'aux États-Unis, on euthanasie 6000 pitbulls par jour. Puis elle, évidemment, elle voudrait tous pouvoir adopter ces chiens-là. Puis elle dit, mais là, si vous me partez sur les pitbulls, ça va durer longtemps.
Elle en a déjà deux.
Oui,
elle,
c'est ça.
Elle ne les aimait pas au départ, elle en a déjà deux.
Oui. Il nous reste un tout petit peu de temps. J'ai envie qu'on en lise un extrait.
Oui,
j'en ai un, si ça ne vous dérange pas. Nous sommes en page 54, alors que Sam, donc il ne l'a toujours pas retrouvé. Et il dit donc, puisque c'est lui qui parle, hein, vous nous l'avez très très bien expliqué, « Je vais avoir froid cette nuit. Peu importe où je serai, je vais avoir froid. Si je n'ai pas retrouvé Sam d'ici la nuit, c'est sûr que je vais geler. » Ça commencera par les orteils et les doigts, comme normalement. J'aurai pas les oreilles tellement froides qu'elles vont finir par brûler. Ça va commencer par en dedans. Ça va me pogner le ventre et puis ça va me prendre la gorge jusqu'à m'empêcher de respirer. Mais pas assez pour me tuer. Faut que je retrouve Sam pour vivre encore, pour mourir encore, lentement. J'avais laissé mon stock chez la cousine de Max. Elle m'a dit qu'on pouvait rester là le temps qu'on trouve de quoi de plus, permanent, pour l'hiver. Peut-être que Sam va être là quand je vais arriver, en avant de la porte. Ça vaut le coup d'espérer. Ça vaut le coup de courir jusque-là, comme si ma vie en dépendait. Anyway, peut-être que ma vie en dépend. Elle n'est pas là. Sam, t'es où, Carlis?
Ça frappe, hein?
Ça frappe, ça
d'ailleurs,
frappe.
Il dit quelque part, sans toi, en parlant à Sam, sans toi, je serais mort 100 fois.
Oui,
je
c'est
pense
ça.
Que ça dit exactement ce que ça dit. Hein?
Oui, exactement. Et puis, sur le jeu, elle explique, Madame Bienvenue, qu'elle adore toujours se mettre à la place de quelqu'un lorsqu'elle écrit. Et c'est, ce qu'elle a, c'est dans cette façon d'écrire qu'elle se sent la plus à son aise. Et ça se sent, ça s'entend.
Hein? D'ailleurs, elle a eu l'honnêteté d'avouer qu'elle n'a pas fait de Mathieu un drogué. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'expérience de la drogue
oui.
et elle se tient loin de,
ouais.
de tout ça. Donc, elle se serait sentie ouais. mal de camper un personnage de drogué.
Ah oui, en voilà. effet.
Et je trouve ça très honnête.
Eh bien, encore une fois, Gérald Cousineau, c'était très agréable de vous entendre nous parler d'un livre alors, dont je rappellerai le titre, « Chercher Sam », chercher
ouais.
ER, à l'indicatif « Sam de Sophie, bienvenue, bienvenue, U, sans E à la
oui,
fin ».
Oui, c'est vrai.
Et voilà, donc
2014,
un livre, voilà, sorti en 2014 et disponible en audio, évidemment, soit
OSQL.
Sur... Voilà. Merci, Gérald.
Ça m'a fait plaisir.
J'ai hâte de vous retrouver dans 4 semaines.
Voilà.
Allez, salut et bonne fin de journée. Et là, on va prendre quelques secondes pour téléphoner à ma prochaine invitée. Ma prochaine invitée qui aurait dû venir en studio, mais je vous avoue qu'au moment d'enregistrer cette émission avec Guylaine Gay, humoriste et auteur, et maman de 2 petits garçons autistes, on nous avait annoncé sur Montréal, comme partout d'ailleurs sur la province de Québec, une énorme tempête. Et Guylaine m'a dit, écoutez, Clotilde, avec mes garçons, c'est pas facile quand il y a tempête. Ce sera pas facile pour moi de venir en direct, en studio, surtout que je pensais prendre l'un des deux. Alors, du coup, c'est pour ça que nous faisons cela par téléphone. Et avec Guylaine Gay, qu'on est en train d'appeler en ce moment, j'ai envie de commencer par la fin. J'ai envie de commencer par une lettre à mes fils. Et cette lettre à mes fils fait partie de ce livre que je vais vous présenter avec Guylaine Gay, qui s'appelle donc « Deux garçons à la mer », mais la mer comme maman. Et cette lettre, c'est l'avant-dernière page quasiment, et cela dit ceci. « Mes beaux enfants, mes extraterrestres, mes géants par qui le grand amour est arrivé, Léo, tu pourras lire cette lettre à ton frère et même s'il te semble indifférent, je sais qu'à sa façon, il va t'écouter. » Merci de m'avoir choisi, parmi tant d'autres, sûrement plus gentille, plus jolie, sans me demander ni diplôme ni référence, juste une ouverture à la différence. Je ne peux même pas dire en mots combien je suis fière de vous. Votre authenticité et vos rires sont un incroyable cadeau pour une femme si peureuse, qui se sauvait de tout. Vous avez fait pousser des racines sous mes pieds, des bourgeons sur mon cœur, dans notre maison, le printemps à l'année depuis vous. J'apprivoise même la noirceur. Quel merveilleux plan que de nous réunir sur cette terre. J'embrasse la puissance qu'il a fait. Dans un océan d'amour, 2 garçons à la mer, votre beauté à faire oublier le lait, comme j'aime explorer votre planète, faire l'aller-retour dans notre vaisseau familial, la voir disparaît avec vous. On a envie d'être, à en perdre même l'habitude d'être normal, mes enfants magiciens, qui ont dans leur chapeau un lapin qui ne ressemble à aucun autre lapin, un esprit construit morceau par morceau, un cœur feutré cousu à la main. Merci de faire de ma vie une vraie vie, de m'apprendre le courage de me remettre sur ma trajectoire quand je dévie, mes enfants, mes grands sages. Si vous avez fait la file au ciel des âmes pour que je sois votre maman, soyez certains que je serai tête première dans les nuages pour vous accueillir, les ailes grandes ouvertes. Notre voyage continuera dans un autre lieu, un autre temps, une vie entière pour vous aimer et une autre complète. Je vous aime, maman, ou, pour mon Léo, Guylaine. » Celle qui a écrit ces mots, en principe, elle devrait être là, au bout du fil, c'est Guylaine Gay. Bonjour Guylaine.
Bonjour, bonjour, c'est tellement beau, je suis complètement émue. C'est la première fois que j'entends mes mots lus par quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment très, très beau.
Ben, écoutez, merci, merci beaucoup, mais c'est à vous que l'on doit ça. Et je suis très heureuse que vous nous parliez. J'ai dévoré ce livre, donc je suis heureuse que vous ayez accepté de nous parler de ces deux petits anges que vous aimez d'amour et que vous nous faites aimer d'amour. D'ailleurs, à un moment donné dans le livre, vous vous demandez, pourvu que vous les aimiez autant que moi, et je peux vous dire que oui. On les adore, vos petits anges. J'aurais adoré d'ailleurs pouvoir les rencontrer, mais j'ai raconté aux auditeurs que lorsqu'il y a tempête de neige et un peu de vent, tout ça, c'est pas facile avec des enfants autistes. Hein.
Non, ben à vrai dire, c'est évidemment que j'aurais bien aimé y aller aussi en personne, mais c'est que mon Clovis, mon plus jeune, a vraiment excessivement peur de tout ce qui est météo un peu houleuse, que ce soit des nuages, du vent, etc. Donc, pour moi, c'est impossible de me rendre. Et puis, c'est pas que l'envie y était, mais les moyens un peu moins. Donc, je suis avec vous par téléphone, mais la connexion du cœur, hein, c'est...
Complètement.
La distance n'est pas importante.
Complètement, Guylaine. Et Guylaine, votre livre est d'une honnêteté désarmante et tellement touchante, parce que ça commence au début par cette femme, vous, qui nous dit que vraiment, et là je vous cite, que vos ovules ne vous ont jamais crié à tue-tête, qu'il serait important de léguer son code génétique à quelqu'un qui aurait le même nez que moi.
Non, c'était pas dans mes plans d'avoir des enfants. J'aime les enfants, cela oui. dit. J'ai été très longtemps monitrice en camp de vacances. J'en parle un peu dans mon livre. Donc, je me suis occupée des enfants des autres très longtemps. Mais je ressentais pas nécessairement ce besoin-là, moi, d'avoir des enfants à moi. Hein, bon, c'est arrivé. Dans le livre, je l'explique bien. J'habite au Nunavut. Je prenais la pilule. Bon, je suis tombée enceinte. Je fais partie de ce 0.008% des femmes qui ont une grossesse malgré la pilule anticonceptionnelle. Mais bon, ça, c'est mon karma. Et j'ai accepté la mission avec le papa de mes enfants à l'époque. On a dit, on est capable.
Ben oui.
Et puis, on est capable. Puis, je suis encore capable. Et puis, jamais regretté ce choix-là. Mais j'avoue que le destin m'amenait quelque part, et puis je m'en doutais pas du tout là que j'allais là. Et c'est un beau cadeau, à vrai dire, que mes enfants, ouais.
Oui, un beau cadeau, et un cadeau que certains pourraient considérer, et je dis bien certains, parce que pas vous, comme empoisonné.
Absolument. Ben c'est sûr que les gens pourraient dire un petit cadeau mal enveloppé, donc ouais. Une surprise. Hein. C'est sûr que je pense que ce qui a fait en sorte que ça a été peut-être un peu plus simple dans mon cas, c'est que parce que initialement je ne voulais pas d'enfant, j'avais pas d'attente irréaliste. Hein? Mm-hmm. J'avais pas ces attentes-là que peut-être des parents qui veulent des enfants depuis longtemps puis qui les veulent parfaits puis qui les veulent. Mais moi j'avais pas ça parce que j'avais pas ce grand désir-là de faire des petits moi. Oui. Donc quand ils sont arrivés, ben j'ai tout de suite compris que ils avaient leur personnalité, ils avaient leur raison d'être, et ça ne m'appartenait pas en quelque sorte.
Mais vous l'avez compris, oui, mais par contre, vous n'avez su que plus tard que vos enfants étaient atteints d'autisme, à tel point que d'ailleurs vous l'avez appris pour le second avant le premier.
J'ai eu le diagnostic de mon plus jeune avant le diagnostic de plus vieux. Hein, donc, Clovis, qui est mon plus jeune, qui a maintenant 13 ans, lui a reçu ce diagnostic d'autisme-là à l'âge de 3 ans, donc assez tôt hein, dans son développement. Et parce que lui, c'était plus facile à identifier. Clovis est un autiste non-verbal, il a beaucoup de, j'aime pas ce mot-là, mais de tics, entre guillemets, donc fait du flapping, agite ses mains de façon très dynamique, marche sur la pointe des pieds, a beaucoup, beaucoup de fixation et de rigidité, et cette peur irrationnelle des nuages et du vent. Ouais. Et Léo lui a reçu son diagnostic. Léo a 15 ans. Maintenant, Léo a reçu son diagnostic à l'âge de 12 ans seulement. Donc, je ne vous dis pas que ça a été plus facile.
Oh là là!
Oui, au contraire, parce que là... Mais moi, j'ai toujours su que Léo était aussi dans le spectre autistique, mais ça a été plus compliqué parce que Léo est un enfant verbal, est un enfant très intelligent. Entre guillemets, ça ne paraît pas du tout parce que Léo n'a pas de tic comme son frère et peut parler. Donc, on est passé au travers plusieurs évaluations avant d'arriver à ce diagnostic concluant. Mais moi, je l'ai toujours su, là, puis c'est juste plus compliqué.
Alors, donc, le petit, parce qu'on va on découvre en même temps ce qu'est l'autisme dans votre livre, mais ce qui est formidable, c'est que ce n'est pas évidemment pas un livre sur l'autisme, c'est un livre sur la relation extraordinairement fusionnel dans ses limites, puisqu'il y en a un qui aime être touché, puis l'autre pas du tout.
Hein,
exactement. Mais le petit, quand vous dites qu'il est non-verbal, est-ce qu'on peut penser qu'un jour il sera capable de proférer des sons ou pas du tout?
Ben, à vrai dire, en ce moment, il répète des mots. On dit de lui qu'il est non-verbal parce qu'il ne peut pas formuler une phrase de façon autonome. Son cerveau, là, les fils du langage ne sont pas connectés comme les miens ou les vôtres.
Oui.
Donc, mais il fait de l'écholalie. Et ça, de l'écholalie, il y a beaucoup d'autistes qui font ça, c'est-à-dire qu'ils répètent des mots souvent hors contexte, quelquefois dans le contexte, mais c'est parce que c'est un enfant qui travaille fort à l'école puis il apprend beaucoup. Et c'est un enfant qui est très intelligent, qui n'a pas de déficience intellectuelle, donc qui comprend tout. Mais évidemment, le fait de ne pas parler complique un peu les choses. Mais donc, cet écholalie-là, ça peut être... il peut répéter, par exemple, un épisode de Dora l'exploratrice 20 fois de suite. Parce qu'il a mémorisé l'extrait avec les intonations des personnages et tout. C'est très fascinant. Et, écoutez, il écoute le Muppet Show en hébreu. Il est capable de compter jusqu'à 30 en hébreu. Donc, c'est comme ça. Bon, on dit qu'il est non-verbal. Mes amis, des fois, me disent « Oui, mais regarde, là, il parle. » Oui, on pense qu'il parle, mais à vrai dire, ce qu'il fait, c'est de l'écholalie. Donc, il répète des choses qu'il a entendues. Mais là, il est capable, par exemple, de demander de l'eau dans le contexte, dans le bon contexte. Okay. Donc, mais il parle comme un robot. « Je veux de l'eau.
Oui. »
Parce que le langage, pour lui, ne veut rien dire. Il a appris à parler, à dire quelques mots parce qu'il a compris que nous, on comprend. Et ça facilite notre communication.
Bien
mais lui, ça ne l'intéresse pas du tout. Il le fait parce que nous, on est un peu ignorants par rapport à comment lui communique. Donc, il le fait pour nous, à vrai dire.
D'ailleurs, vous avez des expressions qui nous touchent, qui sont savoureuses. Après tout, il faut quand même dire aussi que vous êtes une animatrice, vous êtes une chroniqueuse, vous êtes humoriste. Et ce livre est tout sauf triste. Hein, ça, je tiens à le dire. On n'a pas affaire à une rabat-joie qui nous dit « oh mon Dieu, quel enfer, mes enfants. » Bon. Et vous avez, par exemple, en page 67, je ne m'imagine pas que Clovis va parler un jour. Quelqu'un m'a déjà demandé si j'avais déjà imaginé mes fils, et là c'est entre guillemets, normaux. Et j'ai souri, non, je les aime tels quels. Et ensuite vous dites, certains apprennent à parler espagnol, moi j'apprends à parler l'autisme.
Exact, c'est une nouvelle langue pour moi. L'autisme, je ne connaissais pas ça du tout il y a 15 ans. C'est vraiment arrivé dans ma vie. Et puis là, comme n'importe quelle nouveauté, n'importe quel parent veut bien communiquer avec son enfant. Donc, j'ai fait des lectures, mais moi, j'ai pas poussé, j'ai pas eu ce grand besoin-là de tout comprendre absolument de l'autisme. Moi, je suis quelqu'un je suis très instinctive et j'écoute beaucoup mes enfants. Je trouve que ce sont eux les meilleurs professeurs qui soient. Parce que eux le sont. Et moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas autiste. Donc, c'est eux qui m'apprennent à communiquer en autisme, entre guillemets, parce que c'est les spécialistes. Hein. C'est eux qui le sont. Donc, oui, heureusement qu'il y a les professeurs spécialisés, il y a des... Mais moi, je le dis toujours, je le dis souvent en conférence aux parents qui viennent m'entendre, les meilleurs spécialistes, ce sont les parents. Hein, quand on se fait un peu confiance, quand on fait confiance à nos enfants, ben moi, j'ai rien contre les outils extérieurs, je les utilise encore. Mais je pense que quand on établit ce canal de communication-là avec nos enfants, ça facilite beaucoup les choses.
Mais on ne peut pas s'empêcher, par contre, de penser, mais mon Dieu, elle a eu deux enfants, elle a eu deux beaux garçons, mince, les deux sont autistes.
Oui, c'est sûr. Ben, à vrai dire, je suis vraiment pas la seule dans cette situation-là, parce que on est plusieurs à avoir plusieurs enfants autistes. Hein. Il y a une condition génétique dans tout ça aussi.
Voilà.
Hein.
Et vous vous côtoyez?
connectée que les filles,
oui.
Pardon.
Je dis, est-ce que vous côtoyez avec de,
ah,
avec
oui.
Oui, bien sûr, avec
j'en
des parents.
Oui, mais pas que des parents.
Non, bien sûr.
Parce que je vais venir folle.
Ben non, c'est sûr.
Sinon, oui, j'ai des amis aussi. J'ai notamment ma très bonne amie Julie qui a deux garçons autistes aussi, qui fréquentent la même école que mon plus jeune.
Okay.
Donc oui, il y a une fratrie qui s'installe.
Oui.
On comprend nos réalités mutuelles, mais je ne m'entoure pas que de parents d'enfants autistes parce qu'il faut aussi respirer, puis la vie, c'est pas juste l'autisme.
Non, c'est sûr. Hein.
C'est comme une couche additionnelle, mais c'est pas que ça.
Non, c'est pas que ça. Et puis, ils vous font bien rire, hein, vos enfants.
Ah oui, absolument. C'est
hein? Ils vous font marrer, hein?
Oui, beaucoup.
Je me demandais, ce livre, vous l'avez écrit pourquoi? Est-ce que c'est d'abord pour vous? Est-ce que c'est d'abord pour eux? Est-ce que c'est pour ceux qui savent ce que vous vivez ou pour ceux, peut-être comme nous ou d'autres qui nous écoutent, qui ne savent pas?
Ouais.
Quelle est la première motivation?
Je pense que je l'ai écrit vraiment pour tout le monde. Et je pensais au départ l'avoir écrit pour les parents qui, comme moi, vivent cette réalité-là au quotidien. Mais je me rends compte, depuis la sortie du livre, que on dirait que ça s'adresse encore plus aux gens qui ne connaissent pas l'autisme ou qui en ont pas dans leur entourage. Moi, j'ai vraiment écrit ce livre-là comme si c'était une fenêtre ouverte chez moi, où les gens pouvaient regarder, voir comment ça se passe avec mes enfants, parce que maintenant, tout le monde connaît un enfant autiste, tout le monde a un cousin, tout le monde a une amie qui a un enfant autiste. Donc, puis moi, je voulais vraiment aussi qu'on voit la lumière.
Ouais.
Hein, c'est pas moi je ne suis pas une victime, mes enfants ne sont pas des victimes non plus.
Comme vous dites,
je voulais aussi que ce livre-là transpire de bonheur.
Absolument.
Et d'humour et de rire.
Oui.
Et je le répète, Clotilde, ce n'est pas facile, hein, c'est pas facile. Au quotidien, il y a des crises, il y a des incompréhensions, il y a aussi la structure sociale qui nous aide pas vraiment beaucoup. Donc, il y a des défis multiples qui arrivent avec la
condition. C'est clair. Et vous en parlez, d'ailleurs.
La lumière aussi, l'amour, puis le côté aussi plus... moi, je le dis, puis je sais que des fois, ça déplaît. Je dis, l'autisme de mes garçons, ce n'est pas la fin du monde.
Hein. Ah, oui,
c'est autre chose.
D'ailleurs, hein, vous le dites en page 113, très bien, comme vous venez de nous le dire. Voyez-le comme une petite fenêtre ouverte sur la maison. Ne regardez pas le ménage, par contre. Mais on veut... Ah oui, mais ça, c'est pour ça qu'on aime aussi l'humoriste. Est-ce que vous avez l'impression... Mon Dieu, il ne nous reste plus qu'une minute, ça passe trop vite, Guylaine.
Ah oui.
Est-ce que vous avez l'impression que votre nature de femme d'humour vous a aidé aussi à supporter?
Oui, l'humour, c'est vraiment... C'est une arme redoutable. Donc, ça dédramatise la situation. Mm. Ça fait en sorte... Ça allège aussi le quotidien. Puis nous, on est une famille, on se prend pas au sérieux. On a du plaisir. Je partage beaucoup sur les réseaux sociaux ce qu'on vit. Je pense que les gens ont une curiosité. Les gens sont aussi heureux de voir les gens qui en ont des enfants autistes aussi sont heureux de voir des familles heureuses parce qu'il y a beaucoup de familles qui vivent bien ça aussi.
Oui.
Donc, moi, je veux juste... et encore une fois, je dis pas que ce n'est pas facile.
Non.
Je sais que les gens qui reçoivent les diagnostics, c'est très difficile. Il y a un deuil à faire. Mais quand on accepte la situation, quand on ouvre son cœur, ben, il y a aussi la place pour la lumière.
Alors, je vous recommande à vous d'ouvrir ce livre de Guylaine Gay, Deux garçons à la mer. Merci beaucoup, Guylaine.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Des livres pleins les oreilles, la suite. Bonjour Gérard.
Bonjour chère dame.
Gérard Saint-Denis, fidèle au poste.
Toujours. Hein,
toutes les deux semaines, il vient, Gérard, vous proposer des textes, des livres sur un sujet précis. Et aujourd'hui, vous avez décidé d'aborder le thème des religions.
On parle des religions. Oui, on parle des religions parce que c'est une thématique quand même qui est bien connue. Les religions, ça joue beaucoup dans le contexte actuel pour ça. En passant, on va revenir sur l'islam parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ouvrages qui ont été pondus récemment. On reviendra plus tard. Comme j'ai bien hâte d'un parlement d'ici 15 jours ou 3 semaines, je vous parlerai de la Chine aussi, qui est un pays merveilleux.
D'accord.
Je vais tout faire ça. En attendant, je vous parle de religion.
Oui.
Je commence par un livre qu'on a sur OSQLA qui est écrit par Carl Cutting, qui est une religion made in USA.
Alors, une religion made in USA...
C'est les fondamentalistes évangéliques. Je veux dire, c'est, et ça fait peut-être deux générations que c'est très fort. Et ceux qui suivent la politique américaine voient bien qu'avec nos amis de Trump et les autres, là, les autres, ce sont des gens là, qui sont des fondamentalistes, qui sont des évangélistes. Et ces religions-là ont... moi, j'ai remarqué une affaire. Quand on fait la lecture, on s'aperçoit de ça. Je repense même à notre ami M. Harper.
Oui.
Et ces gens-là ont comme une espèce de notion qu'on est obligé de souffrir un peu. Ça fait partie de la souffrance. Et ça, on vit avec ça. J'ai pas l'autre choix, là. On vit avec ça.
Alors donc, une religion made in USA et l'évangélisme.
Oui, SQLA, c'est très beau. Après ça, vous allez avoir les religions catholiques, orthodoxes, protestantes, judaïstes, kabbales, islam, puis bouddhistes.
Mon Dieu, c'est la totale.
C'est un résumé. C'est Quincy Ludwig, L-U-D-W-I-G.
Oui.
Ou SQLA aussi. Des religions... c'est fascinant. Vous allez voir ça. C'est intéressant de voir à peu près. Ça fait une espèce de résumé des religions.
OK. Mais je voudrais quand même repréciser, pardon Gérard, que le titre du livre, c'est vraiment celui que vous avez donné parce qu'on pourrait penser que vous dites « Ah, ça traite de religion catholique ». Non, non. Le titre précis, c'est
« Les religions catholiques, voilà. Orthodoxes, j'ai tout nommé. »
Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est le titre. Oui. Merci beaucoup, Gérard.
Et après ça, on s'en va au petit traité d'histoire des religions. Ça, c'est drôle, par Frédéric Lenoir, c'est de AVH, Association Valentin AU. C'est léger, c'est facile, c'est pas long, et c'est fort intéressant.
Mais Frédéric Lenoir, qui est venu récemment, hein, c'est qui est un philosophe, c'est un type, entre autres, qui a signé récemment un livre sur la joie, si je ne m'abuse.
Ah, je pense que vous avez raison.
Frédéric Lenoir.
Je pense qu'il est passé à l'émission, les grandes émissions françaises qui passent aux 5, les cabarets du...
Ah oui?
Oui, les cabarets, là, ça dure 2 heures et demie, mais c'est intéressant. Il n'y a pas juste des...
Non, je vois très, très bien de quoi vous parlez.
J'ai parlé de Moisset, M-O-I-S-S-E-T, Jean-Pierre.
Jean-Pierre Moisset, oui.
Histoire du catholicisme. On va parler du catholicisme, c'est nous autres. C'est notre religion, pour beaucoup d'entre eux qui nous écoutent, là, c'est notre religion de base. Ça, je trouve ça fort intéressant.
Ça, c'est vraiment du 1er siècle à nos jours. Hein?
Ouais,
2000 ans de réalité chrétienne en quelques 500 pages, hein? C'est bien ça.
À peu près.
Alors ensuite, est-ce qu'on y va sur votre choix ou les fondations du bouddhisme et tout ça?
Porte sur un personnage qui nous a quittés il y a quelque temps,
oui.
Mais qui nous a quittés à 100 ans.
oui.
C'est notre ami
le Père Lavoie.
C'est ça. Et je pense que c'est important parce que c'était un bonhomme qui a fait beaucoup, beaucoup. Moi, je l'ai connu.
Oui, vous l'avez connu.
Et moi, j'ai été déjà secrétaire général de l'Action catholique. J'ai fait ma philosophie à l'Université de Montréal. Je suis allé à plusieurs de ses conférences. J'ai lu de ses livres. Et je dis aux gens, je souhaite que nos lecteurs, et ceux qui nous écoutent, là, nos auditeurs, aillent tout simplement sur le Service québécois du livre adapté.
Oui.
Mettre Lacroix, Benoît Lacroix.
Et non, j'ai dit Lavoie tantôt, hein. Excusez-moi, j'ai dit Lavoie, Lacroix, bien sûr.
Bernard Lacroix.
Ouais.
Et il y a Dieu dans nos. Et Dieu dans tout ça, c'est une espèce de résumé.
Mais c'est Benoît, c'est pas Bernard. Décidément, on a tout faux tous les deux.
C'est Benoît Lacroix.
Oui, bien sûr. Quel personnage.
Il y a le livre et Dieu, mais celui que je veux mentionner à vos gens, c'est La foi de ma mère. Ça, quand j'ai lu ça, ça fait longtemps que je l'ai lu.
La foi de ma mère.
La foi de ma mère. Et Lui, il est né en 1915. Mm-hmm. Donc, il était à Saint-Michel-le-Bellechasse. C'était sous bord de l'eau. C'était des agriculteurs. Ils avaient la foi que nos grands-parents avaient. Là,
oui.
Et c'était un regard merveilleux sur les pratiques religieuses naïves et tellement importantes quand même. Ça, je trouve ça merveilleux. C'est un bonhomme formidable. Hein?
Mais
c'est un
bonhomme
qui... Et il y a aussi... La mer récompense les fleurs. La mer récompense le fleuve. C'est bien, bien agréable. C'est des confidences qu'il nous fait. C'est un peu comme s'il était dans notre salon et qu'on l'écoutait parler. Il a fait beaucoup de télévision, ce bonhomme-là. Hein?
Et puis, oui.
Il a une facilité de communication. On dirait que quand on écoute ses livres, nous autres, on écoute les livres.
Ben oui.
On jurait qu'il est à la radio.
Ah oui,
Oui, c'est ça qui est intéressant.
Ah, oui.
Et après ça, il y avait que viennent les étoiles. C'est encore une autre réflexion qui est quand même très intéressante sur les personnages. Moi, je trouve que c'est un bonhomme qui mérite d'être lu.
Oui.
Ce qu'on fait, on va simplement sur
SQLA.
Et on écrit Benoît Lacroix.
Exactement.
C'est ROX. Et on regarde les titres. Et le premier qu'on devrait lire, c'est La foi de ma mère. Je pense que tout le monde va adorer ça.
Ah, OK. Bon, il nous reste un petit peu de temps. Il me semblait que vous aviez peut-être des choses sur le bouddhisme à nous proposer aussi, non?
J'avais quelque chose sur le bouddhisme. C'était, attendez que je retourne.
Est-ce que j'avais les fondations du bouddhisme? Et puis aussi le livre de Jean-François Revel. Ben les deux sont à l'Inca. Le moine et le philosophe, le bouddhisme aujourd'hui.
Le moine et le philosophe, oui.
Hein? Qui sont les échanges entre un père philosophe et un fils converti au bouddhisme qui travaille auprès du Dalai Lama. On parle de Mathieu Ricard, bien sûr.
Et quand vous parlez du bouddhisme, je reviens à Benoît Lacroix. Lui aussi, il croyait beaucoup au bouddhisme.
Oui.
Oui, beaucoup.
Mais comme tous ces gens intelligents-là, ils ne réfutent aucune religion. Ils sont ouverts à tout, quoi.
Et surtout, le bouddhisme, je pense que c'est une approche tellement ouverte.
Oui.
Tellement merveilleux que ça répugne pas à personne. Tu conserves ta religion.
Gérard, je vous remercie beaucoup de nous avoir proposé ces livres du Père Lacroix parce que, effectivement, c'était important que dans le cadre de cette émission-là, nous soulignions la disparition de ce grand homme.
Oui, qui est un humaniste, c'est pour ça.
Exactement.
Un philosophe, un humaniste. Qui a apporté une grande contribution au niveau du Québec.
Et comme vous apportez une grande contribution à l'émission des livres plein les oreilles, et je vous en remercie, Gérard, mais je suis obligé de vous couper le sifflet. Je vous embrasse, Gérard, fort. Merci, bye. Gérard Saint-Denis. C'est la bande-annonce de la semaine prochaine, un livre qui s'appelle Reportage au pluriel sous influence et qui est signé par Éric de Belval. Éric de Belval, oui, c'est peut-être un nom que vous connaissez parce que Éric a longtemps été bénévole à la radio de Radio-Canada, à la radio ici à Canal M. Éric de Belval qui a fait des études de lettres et de sciences politiques à Paris. Il est né à Paris en 1950. Il a été à la tête de plusieurs entreprises pendant près de 20 ans. Il a notamment dirigé la fondation d'un grand groupe pétrolier qui s'appelait ELF en France et la fondation de l'Avenir pour la recherche médicale appliquée avant d'émigrer au Québec il y a maintenant 5 ans, en 2011, où il se consacre à la littérature, mais aussi d'ailleurs à la peinture. C'est un artiste dans l'âme, notre Éric. Reportage sous influence est son troisième roman. Il va donc venir nous en parler la semaine prochaine. C'est l'histoire d'un photographe de presse qui se raconte, ou plutôt, comme le disait, je pense, c'était Chantal Legui dans un article, qui raconte ses aventures, et ce sont des aventures absolument abracadabrantes et cauchemardesques, alors qu'il était en mission à la fin des années 90 à Luanda, en Angola. On est en pleine guerre civile. Et reportage sous influence, c'est donc l'histoire de ce photographe. Et c'est une histoire complètement prenante et déconcertante. On est à la fois dans le décor et aussi à l'envers du décor, parce que lui, le photographe, évidemment, comme c'est écrit au jeu en plus, on le suit comme ça dans les méandres, dans les rouages de tout ce qu'il y a de plus laid dans le monde. Il est question de beaucoup de mensonges, notamment dans ce livre-là que j'ai bien hâte qu'Éric vienne nous proposer. J'en ai un extrait. Ce que je vous propose, c'est la toute première page, les premiers mots de ce livre, Reportage sous influence, d'Éric de Belval. La plupart des pays africains mettent un point d'honneur à édifier un terminal d'aérogare qui dépayse le moins possible le voyageur occidental. Ce souci n'avait plus cours à Luanda à la fin des années 90, ainsi qu'en témoignait la façade à demi effondrée du hall de transit. Les soldats postés devant l'entrée dévisageaient les voyageurs pour s'assurer de leur disposition à pénétrer en enfer. Le colosse occupé à feuilleter mon passeport hésitait à prendre une décision à mon sujet. Après avoir longuement examiné les tampons apposés aux quatre coins de la planète, il donna de la voix. « Communiste ? Canadian photographer ?» tentai-je, en tapotant la mallette contenant mon matériel de prise de vue accroché à mon épaule. J'obtins en retour une moue dédaigneuse accompagnée d'un geste autoritaire qui signifiait « Ouvrez vite !» Je m'exécutais et le laissais fouiller sous les protections de mousse destinées à caler les objectifs. J'y avais, comme d'habitude, glissé deux billets de $20 que ses doigts rencontrèrent sans s'étonner. Ils disparurent en même temps que ses soupçons. Il me rendit mon passeport visé en me gratifiant d'une information touristique « No taxi ». Voilà, c'est comme ça que ce photographe reporter arrive en Angola et écoutez tout ce qu'il va lui arriver. On nage dans la corruption, on nage dans la jalousie, on nage encore une fois dans le mensonge. C'est un excellent livre qui avait d'ailleurs reçu une excellente critique dans le Devoir au moment de sa sortie il y a un petit peu plus d'un an. Alors ne manquez pas ça la semaine prochaine, Éric de Belval. Avec son livre Reportage sous influence. Des nouvelles et des livres. C'était un philosophe, c'était un écrivain, c'était un essayiste. Umberto Eco est mort à 84 ans le 19 février dernier à Milan d'un cancer. C'est ce qu'a confirmé sa famille, un quotidien italien qui s'appelle La Repubblica. Un pionnier de la sémiotique, nous rappelle-t-on dans un article du journal Le Monde, article sur lequel je vais m'appuyer si vous me le permettez. Qu'est-ce que la sémiotique ? J'ai dit la sémantique, la sémiotique, la science des signes. Et c'était aussi un théoricien du langage et notamment de la réception. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve en filigrane tout au long de son œuvre romanesque. Puis lui qui a été aussi auteur de nombreux romans, mais de nombreux essais sur l'esthétique et les médias notamment. Il a été, Monsieur Umberto Eco est né dans le Piémont, à Alessandria précisément. C'était le 5 janvier 1932, au sein d'une famille de la petite bourgeoisie. Son grand-père est un enfant trouvé et son père était l'aîné de 13 enfants. Il est le premier à passer du monde des prolétaires à celui des employés Umberto Eco, qui grandit sur fond de guerre et de maquis. Entre 11 ans et 13 ans, j'ai appris à éviter les balles, d'ailleurs, confiait cet homme rétif à toute confidence intime. Au terme d'études supérieures de philosophie et d'esthétique à Turin, il soutient en 1954, sous la direction du philosophe antifasciste Luigi Parlesone, une thèse de fin d'études sur l'esthétique chez Thomas d'Aquin. Mais bon, il ne va pas en rester là, hein, comme on le sait. Nombreux essais, oui, mais il a aussi été professeur, chroniqueur, chercheur. Et tout au long de sa carrière, il a aussi repris dans ses recueils nombre de ses conférences et contributions. Et d'ailleurs avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour, notamment avec « Comment voyager avec un saumon ». Ça, c'était sorti chez Grasset en 1998 et c'est disponible en audio via le SQLA. Alors, Umberto Eco, quand on dit ce nom-là, on pense aussi à son œuvre de fiction. Bien évidemment, on pense d'abord au nom de la rose. En 1980, c'est ce titre-là qui l'a rendu millionnaire. Je ne sais pas en termes d'argent, mais en tout cas, il en a vendu. Il a été traduit dans je ne sais plus combien de langues, plus de 80 langues. Ce livre qui a donné lieu aussi à un film, vous vous en souvenez certainement, Le nom de la rose, qui portait le même nom que le bouquin, avec notamment Sean Connery. Vous savez, on est dans ce monastère là où il y a des meurtres qui sont perpétrés, les moines tombent les uns derrière les autres de façon plus horrible les unes que les autres. Mais il y a d'autres livres aussi dont il faut parler, notamment le pendule de Foucault par exemple, qui mêle histoire et actualité à travers une investigation menée sur plusieurs siècles de l'ordre du temple au sein des sectes ésotériques. Il y a aussi L'île du jour d'avant, La mystérieuse flamme de la reine Loana. Tous ces livres que je suis en train de vous citer, d'Umberto Eco, sont disponibles via le SQLA. Il y a aussi Baudolino, ou Baudolino si vous préférez, B-A-U-D-O-L-I-N-O. Ça, c'était une chronique éblouissante du temps de Barberousse, tenu par un falsificateur de génie. Il y avait aussi, en 2010, il a sorti Le cimetière de Prague, qui est également disponible via le SQLA. Voulez-vous que je vous redonne un petit peu, peut-être, avant de finir, d'Umberto Eco? Il y avait donc tous les titres en ce moment qui sont disponibles. Il y a « À reculons comme une écrevisse », ça c'est un essai. « Guerre chaude et populisme médiatique ». Il y a Baudolino, dont je vous parlais, d'Umberto Eco, toujours bien sûr, hein, parce que là j'évoque la disparition de ce génial auteur et philosophe italien. Il y a le cimetière de Prague que vous pouvez également retrouver au SQLA. Aussi, on en parlait un petit peu plus tôt, « Comment voyager avec un saumon ». L'île du jour d'avant, d'Umberto Eco, et puis « La mystérieuse flamme de la reine Loana ». Voilà pour un an. Il y a aussi, évidemment, le nom de la rose, bien sûr, j'allais oublier ça. Et puis, numéro zéro, ça, numéro zéro, c'est le tout dernier livre qui est paru sous la plume d'Umberto Eco et qui a été enregistré en 2015, ici même, chez Vues et Voix. Voilà, je pense ne pas en avoir oublié. Sinon, que vous dire aussi que, entre autres, ce type a été titulaire d'une chaire européenne au Collège de France, que son dernier roman, je viens de vous le dire, s'appelait Numéro Zéro et c'est sorti en 2015. Et ça, c'est intéressant peut-être pour mieux comprendre comment ce type-là bâtissait ses livres, Umberto Eco. C'est que quand il était tout jeune, dans les années 55-58, il était assistant réalisateur à la RAI. La RAI, c'est la chaîne italienne principale. Voilà, donc j'espère vous avoir peut-être donné envie de retourner dans l'œuvre d'Umberto Eco, une œuvre qui ne peut laisser personne indifférent. Et en vous rappelant que M. Umberto Eco est mort à l'âge de 84 ans le 19 février 2016. Alors, vous le savez, si vous êtes des fidèles de cette émission, des livres plein les oreilles, je termine toujours cette deuxième demi-heure par des livres que j'ai envie de vous suggérer. Toutes sortes de bouquins, toutes sortes de sujets. Il y en a pour les intellos, il y en a pour ceux qui aiment plutôt le polar ou l'histoire. Alors tiens, on va commencer par un polar avec John Grisham. Quand même, l'incontournable John Grisham. Je vous parle là de L'ombre de Grey Mountain. qui vient d'être rendu disponible via le SQLA. Un petit résumé, nous sommes en 2008. La carrière de Samantha Coffer dans un grand cabinet d'avocats de Wall Street est sur des rails dorés, mais la récession frappe soudain. Alors la jeune femme se retrouve du jour au lendemain au bas de l'échelle, limogée, raccompagnée vers la sortie, quasiment jetée dehors par une escorte de vigiles. Mais Samantha a toutefois la chance, elle a de la chance dans son malheur, un cadeau de ses supérieurs. Si elle accepte de travailler gratuitement pendant un an dans un centre d'aide juridique, elle pourra peut-être réintégrer sa place au cabinet. En quelques jours, Samantha quitte Manhattan pour s'installer à Brady, en Virginie, qui est une espèce de bourgade de 2200 âmes au cœur des Appalaches, un recoin du monde où jamais, certainement, cette Samantha n'aurait pensé mettre les pieds. Elle y rencontre Mattie Wyatt, une figure éminente de Brady et directrice du centre juridique, et qui va lui montrer comment aider les vrais gens ayant de vrais problèmes. Et pour la première fois dans sa carrière d'avocate, Samantha va préparer un procès. Elle va connaître la violence des salles d'audience. Elle va se faire réprimander par un juge. Elle va recevoir des menaces de mort. Elle va apprendre également que Brady, comme nombre de petites villes, cache de lourds secret. Alors voyez-vous, là où elle ne s'y attendait pas finalement, eh bien elle va apprendre plein de choses et nous, lecteurs, eh bien on va la suivre pas à pas et on va adorer cette histoire où nous serons souvent dans des cours de justice. Alors avis aux amateurs. John Grisham, L'ombre de Grey Mountain. Roman pas facile, ou plutôt récit pas facile que celui-ci. Une femme blessée de Marina Carrère d'Ancos. Carrère, C-A-2-R, E, accent aigu R-E, et d'Ancos, D-apostrophe, E-N-C-A-U-S-S-E. On parle de Fatima qui vit au Kurdistan irakien avec son mari et leurs enfants et la famille de son mari. Et un jour, elle est emmenée à l'hôpital de Souleymaniye, très grièvement brûlée. Apparemment, c'est un accident domestique. Apparemment seulement, car ces accidents, dont sont victimes de nombreuses femmes, en général très jeunes, masquent souvent des crimes d'honneur dont nous parlons régulièrement dans les journaux. Tandis que Fatima va lutter pour vivre, malgré ses blessures, pour ses enfants et le bébé qu'elle porte. Car oui, en plus, elle est enceinte et qu'elle appelle d'ailleurs le bébé de la honte. La vie dans son village s'organise, mais sans elle, à tel point qu'il semble qu'elle n'ait jamais existé. Et seule sa fille aînée va continuer à évoquer son souvenir. Alors que va devenir Fatima? Que s'est-il passé exactement le jour de l'accident, toujours entre guillemets, le jour où le bébé de la honte a été conçu? Quel mystère plane sur cette femme? C'est un roman poignant pour décrire la terrible réalité des crimes d'honneur. Je vous rappelle le titre, Une femme blessée, de Marina Carrère d'Ancos. Les murs de la salle d'exposition sont couverts de tableaux. Ils sont tous tellement beaux qu'on ne sait plus où donner de la tête, devant lequel s'attarder. Alors on ne s'attarde pas. Dans la pénombre, au fond d'une salle, est accroché un seul petit tableau. L'assistance est silencieuse, recueillie. Il s'agit d'un dessin de Raphaël, une vierge belle à se damner. Je m'arrête devant la devanture d'un kiosquier. Les étagères ploient sous le poids des journaux, des revues, souvent jamais lues. Le marchand de journaux est débordé, il n'a plus de place. Je viens d'acheter un nouveau poste. Il me garantit 1350 stations. Je ne peux plus entendre ma radio préférée. Il y a trop de stations, elle se brouille. Sur l'appareil qu'on m'a offert, je peux stocker plus de 1000 chansons. Mon nouveau téléviseur me promet 500 chaînes. Je suis arrêté dans un embouteillage depuis plus d'une heure. Il y a trop de voitures. J'ai voulu acheter les sonates pour piano de Mozart. Il y a 50 interprétations. Comment choisir ? Au supermarché, j'ai compté 40 marques de gâteaux secs. Je n'en ai pas acheté. Le prince a 400 femmes dans son harem. Il a l'embarras du choix. Chaque soir, il hésite, se morfond. Quand il choisit une brune, il pense aux blondes. Quand il choisit une blonde, il pense aux brunes. J'ai le syndrome du harem. J'ai le choix, j'ai surtout l'embarras du choix. J'imagine une forêt hirsute. Les arbres sont côte à côte, trop serrés. Ils s'étouffent. La forêt va bientôt mourir. On va couper quelques arbres pour mon nouveau livre. Il sort une centaine de livres par jour. Je pense à mon petit livre. Au bout d'une semaine, il va disparaître, écrasé par 600 livres. Mon prochain livre, je vais l'appeler « Trop ». Et c'est ce livre-là que je vous présentais à l'instant, Trop comme trop, T-R-O-P, de Jean-Louis Fournier. La reine aux pieds nus, encore une nouveauté au SQLA d'Ildefonso Falcone. Nous sommes en 1748. Caridad est une esclave cubaine noire affranchie qui se retrouve abandonnée sur le sol de Séville, sans ressources. Elle est recueillie par un vieux gitan au caractère ombrageux qui s'appelle Melchor, qui l'impose à sa famille et à toute la communauté dans les faubourgs de la ville. Tout en travaillant, elle roule des cigares de contrebande. Caridad, qui se lie d'amitié avec Milagros, la petite fille de Melchor, une jeune gitane fière et avide de liberté. Tandis que Milagros, prise en tenaille entre la loi gitane et les persécutions de la part des Espagnols, fait le difficile apprentissage de la vie, Caridad, victime née, a bien du mal à se libérer de ses chaînes. Au travers de ces aventures souvent tragiques de Milagros, Caridad et Melchor, nous est racontée la formidable lutte des gitans pour la survie dans une Espagne catholique qui ne cherche qu'à les éliminer. Voilà le thème et le sujet de ce livre dont je vous redonne le titre, « La reine aux pieds nus » d'Ildefonso Falcones. Falcones comme F-A-L-C-O-N-E-S. Et je finirai par un livre que j'aurais personnellement beaucoup de mal à lire sans avoir au moins 10 boîtes de Kleenex autour de moi. Ça s'appelle « Le chagrin des animaux ». C'est de Barbara G. King. Depuis notre plus tendre enfance, nous attribuons aux animaux des émotions qui ressemblent aux nôtres. Les scientifiques se sont longtemps battus contre un tel anthropomorphisme, considérant que cela limitait notre capacité à comprendre la vie d'autres créatures. Récemment, cependant, les choses ont commencé à évoluer et l'anthropologiste Barbara G. King se trouve au premier plan de ce mouvement. Avec le chagrin des animaux, elle attire notre attention sur la souffrance qu'ils peuvent éprouver devant la maladie et la douleur des leurs, et ou alors encore devant leur mort. Elle nous raconte à travers différentes situations vécues sur le terrain l'histoire d'animaux endeuillés par la perte de leurs proches. C'est un livre à lire si vous avez le cœur bien accroché. Et c'est là-dessus que je m'arrête pour aujourd'hui, non sans vous remercier d'avoir été présent et non sans remercier Jean-Sébastien Laliberté et mes invités aujourd'hui, Gérald Cousineau, Guylaine Gay et Gérard Saint-Denis. Voilà, c'était Clotilde Seil sur les ondes de Canal M. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut!